Bonjour à toutes et à tous, il est tout juste 16h à Paris.
Olivier Sherman.
La Croix-Rouge lance un appel pour récolter en urgence plus de 100 millions de dollars pour les sinistrés en Birmanie. L'aide internationale continue à arriver sur place où le séisme qui a frappé la région a fait plus de 1700 morts pour l'instant. L'Inde est l'un des pays qui vient en aide aux Birmans, comme nous l'expliquera de New Delhi Léa Ojal. En Corée du Sud, les feux les plus destructeurs de l'histoire du pays sont presque maîtrisés. 30 personnes sont mortes, plus de 48 000 hectares sont partis en fumée. Notre correspondante en Corée, Camille Ruiz, s'est rendue à la rencontre des déplacés. Ils sont des dizaines de milliers à avoir fui leur village. L'OMS réduit de 21% son budget après le retrait américain et envisage des licenciements. Claire Fage nous expliquera où seront effectuées ces réductions budgétaires pour l'Organisation mondiale de la santé. Enfin, Sophie Torlotin s'intéresse aujourd'hui à un documentaire sorti en salle cette semaine en France, Rupestre, c'est sur l'art pictural. La Birmanie est le pays le plus touché après le puissant séisme de vendredi qui a frappé la région et qui a fait au moins 1700 morts. Selon un bilan très provisoire, l'ampleur de la catastrophe reste toujours difficile à évaluer avec précision. Les secours tentent de rechercher des survivants dans les montagnes de destruction et de venir en aide aux sinistrés. Et il y a de l'espoir, une femme enceinte vient d'être sortie vivante d'un immeuble effondré. L'aide internationale continue d'arriver. La Croix-Rouge a lancé un appel pour récolter en urgence plus de 100 millions de dollars. La Chine a envoyé 82 sauveteurs et s'est engagée à fournir près de 14 millions de dollars d'aide humanitaire d'urgence. Un avion chargé de kits d'hygiène, de couverture, de nourriture et d'autres produits de première nécessité a atterri hier à Rangoon. La Corée du Sud, les États-Unis et l'Union européenne notamment ont aussi annoncé une aide. L'Inde, de son côté, a réagi rapidement et avec solidarité en lançant l'opération Brahma, une mission humanitaire d'envergure pour venir en aide aux populations touchées. Léa Ojal à New Delhi.
Un premier avion d'aide humanitaire en provenance de l'Inde est déjà arrivé en Birmanie. À bord, du matériel humanitaire qui sera distribué aux sinistrés. Cette aide comprend des médicaments et des fournitures de première nécessité. En parallèle, New Delhi a également déployé un hôpital de campagne accompagné de 118 membres du personnel médical pour fournir les soins nécessaires aux blessés et aux malades dans les zones les plus affectées. L'Inde est prête à offrir toute l'assistance possible. À cet égard, nous avons demandé à nos autorités de se tenir prêtes à intervenir, a écrit sur X le Premier ministre Narendra Modi. L'Inde et la Birmanie entretiennent des relations militaires depuis plusieurs années, en grande partie motivées par des préoccupations de sécurité partagée, notamment en ce qui concerne les insurgés opérant le long de la frontière indo-birmane. Léa Ojal, New Delhi. RFI.
Et un autre séisme a frappé la planète. Il vient d'être signalé cette fois. Il s'est passé au large des îles de Tonga dans le Pacifique. Et une alerte au tsunami a été mise. Un séisme de magnitude 7,1. De dangereuses vagues au tsunami provenant de ce séisme sont possibles dans un rayon de 300 km autour de l'épicentre, le long des côtes des Tonga. C'est ce que dit le système américain d'alerte au tsunami. En Corée du Sud, les feux les plus destructeurs de l'histoire du pays sont presque maîtrisés, selon le dernier bilan. 30 personnes sont mortes, plus de 48 000 hectares sont partis en fumée. Dans la capitale d'une province au sud-est de Séoul, à Hanedong, les flammes ont même repris samedi matin. Notre correspondante Camille Ruiz s'est rendue sur place à la rencontre des déplacés. Ils sont des dizaines de milliers à avoir fui leur village.
Dans le gymnase au centre-ville d'Andong, des dizaines et des dizaines de tentes grises en rang d'oignon. Dans un coin aménagé, des enfants font de la pâte à modeler, imperturbables. Mais ce sont les personnes âgées qui sont les plus nombreuses et les plus inquiètes. Shoyeonja a 80 ans et elle vient de la commune d'Ima, à 200 km au sud-est de Séoul. Elle est assise dans sa tente sur un matelas aussi fin qu'un tapis, en compagnie de ses deux amis et voisines.
On a fui dans une voiture que le chef du village conduisait, mais le feu était déjà là, des deux côtés de la route. J'ai cru que j'allais mourir. J'avais tellement peur. Au téléphone, mon fils m'a dit « Maman, ne pense qu'à toi et surtout ne retourne pas voir la maison. »
En partant, Yeonja n'a pu emporter que ses précieux médicaments. Son Moon-young, 73 ans, a trouvé refuge dans une école de l'autre côté de la rivière qui sépare la ville. C'est dans celle-ci que puisent les hélicoptères pour tenter d'éteindre les feux. Mais pour le retraité, c'est déjà trop tard.
Ma maison a été réduite en cendres, tout a brûlé. Nous avons fui en voiture, ma femme et moi, sans pouvoir rien emporter. Dans mon quartier, il y avait un vieil homme âgé qui avait du mal à se déplacer. Cette personne est morte là-bas. Je me rappelle l'avoir vu de loin. Je suis tellement désolé, je n'ai pensé qu'à moi.
Selon les services forestiers, la majorité des victimes avaient entre 60 et 80 ans. Ce sont les feux les plus mortels de l'histoire de la Corée du Sud. Camille Ruiz, Andong, RFI.
L'Organisation mondiale de la santé annonce qu'elle va réduire d'un cinquième son budget après le retrait en début d'année des États-Unis, son principal contributeur. Le président Trump avait dès son entrée en fonction accusé l'agence onusienne d'avoir entre autres reproché mal géré la pandémie de Covid-19. La baisse de l'aide mondiale au développement est également en cause dans les mesures d'économie de l'OMS qui prévoit de réduire son personnel. Les explications de Claire Fage.
Le directeur général de l'OMS l'explique dans un mail interne. L'agence onusienne accuse dès cette année un déficit de 600 millions de dollars. Malgré des économies de coûts substantielles, l'OMS n'a pas d'autre choix que de commencer à réduire son budget. Initialement de 5,3 milliards de dollars pour les deux années 2026-2027, il sera amputé non pas de 7,5% comme prévu après le retrait en janvier des États-Unis, mais de 21%. L'annonce des États-Unis combinée à des réductions récentes de l'aide publique au développement de certains pays pour financer une augmentation de leurs dépenses de défense a rendu notre situation beaucoup plus critique, explique Tedros Ghebreyesus. Nous n'avons pas d'autre choix que de réduire le périmètre de notre travail et de notre personnel, poursuit-il. Ces mesures s'appliqueront d'abord au niveau du siège, en commençant par les hauts dirigeants, mais affectera tous les niveaux et toutes les régions. L'OMS compte 9500 employés, dont un quart à son siège de Genève.
Une frappe aérienne israélienne sur une maison et une tente abritant des personnes déplacées a tué au moins 8 personnes, dont 5 enfants, dans le sud de la bande de Gaza. C'est ce qu'indique la défense civile palestinienne. Une nouvelle frappe qui intervient au moment où les médiateurs, Égypte, Qatar et États-Unis poursuivent leur effort pour rétablir un cessez-le-feu et obtenir la libération des otages israéliens. Et au moment où un haut responsable du Hamas a déclaré que le groupe avait approuvé une nouvelle proposition de cessez-le-feu présentée justement par ses médiateurs. L'État hébreu a confirmé la réception de la proposition et a déclaré qu'Israël avait soumis une contre-proposition en réponse. Les détails de ces efforts de médiation restent pour l'instant confidentiel. Le journaliste suédois Joachim Medin a été arrêté et placé en détention à Istanbul. Il est accusé de terrorisme et d'insultes au président Recep Tayyip Erdogan. La libération de ce journaliste suédois est une priorité absolue du gouvernement. C'est ce qu'a déclaré ce matin la ministre suédoise des Affaires étrangères. Le geste pictural a-t-il beaucoup évolué depuis la préhistoire ? En septembre 2022, 8 auteurs de bandes dessinées sont conviés à une expérience unique au monde. Pendant 10 jours, ils quittent leur table à dessin et se retrouvent dans leurs ancêtres. Cet état donné à l'art pariétal, l'art de peindre les parois des grottes. Ensemble, ils donnent libre cours à leur imagination dans une petite grotte transformée en champignonnière. Un documentaire sorti en salle cette semaine montre leur compagnonnage, signé Marc Azéma. Il s'intitule Rupestre. Sophie Torlotin.
C'est la forme qui m'a dicté le fait de faire le bras ici, parce que tu avais déjà un creux.
Après avoir exploré les grottes préhistoriques ornées comme Lascaux 2 ou Chauvet, des auteurs de bandes dessinées voulaient aller plus loin.
On a lancé un appel dans la presse locale et on a dit, voilà, si vous avez une grotte, nous on vous la repeint.
Troops fait partie des 8 dessinateurs à tenter l'aventure dans une grotte des Causses du Quercy. Parmi eux, une seule femme, Chloé Cruchaudet.
Il n'était pas question de signer de manière très banale. Donc du coup, à un moment donné, je me suis dit, tiens, on peut faire un espèce de photomaton de grotte, donc un gros tomaton. Et on s'est amusé donc à projeter nos ombres sur une paroi et puis tout simplement à souligner le visage.
Ailleurs, Emmanuel Guibert peint des arbres, d'autres des animaux. Comme leurs lointains ancêtres d'il y a 18 000 ans, les auteurs utilisent des pigments naturels. David Prudhomme.
Il y a un lien qui est toujours le même depuis les débuts du Sapiens. C'est qu'avec les traits, les taches et les points, on raconte des histoires.
Cette grotte ornée du 21e siècle est fermée au public, mais le film Rupestre documente cette aventure que les dessinateurs ont aussi racontée dans la bande dessinée Pigments, publiée chez Futuropolis.
Le film rupestre, donc signé Marc Azéma, et cette histoire nous était racontée par Sophie Torlotin. Vous écoutez RFI, il est tout juste 16h10 à Paris. Passez une excellente après-midi.